J'aime regarder des chips qui marchent sur la plage.
Comment? Pourquoi? Je me prépare parce que l'enjeu de l'élection présidentielle, il est majeur, il est historique. Pour la France, mais pas simplement pour la France. Du vote des Français va dépendre l'avenir de l'Europe et peut-être même la stabilité du monde. Se préparer, comment? Avec d'autres, ceux qui le voudront, ceux qui notamment représentent la gauche réformiste. Moi, je me prépare avec les idées, les rencontres, la volonté de rassembler, et puis l'idée que c'est trop important pour qu'on puisse là être spectateur.
On fait ce qu'on veut, 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 on fait ce qu'on veut. est vendredi, on est 19h et c'est donc l'heure de Frisson en direct sur votre canal B. Comment ça va Ludo ?
Ça va bien, salut Guillaume, salut tout tous.
Ouais, c'est marrant cette expression. Ouais. Salut Vivian.
Salut Guillaume.
Tu vas bien ?
Ça va et toi ?
Dis-moi, tu n'es plus un invité, tu es presque un permanent.
C'est vrai.
Tu as payé ta cotise mec.
C'est combien ?
C'est 50 euros.
Okay. Ouais, par que tu dois à Guillaume, émission. 50 euros à moi, 50 euros à tout le monde.
Ah ouais ?
On en reparlera.
Je peux repartir sinon. Voilà. Il y a encore temps ou pas ?
Je peux couper ton micro.
Et nous avons aussi une invitée dont on ne sait plus vraiment dire si elle est invitée ou
permanent. Mais ouais, je me disais, permanent. Elle ressemblait vachement quand même à l'autre, là, la candidate au municipal.
L'autre, là.
Mais il y avait une candidate qu'on avait reçue, je ne sais plus son nom. Celle qui dit « Ah, j'aime pas les milliardaires, machin », alors que bon, elle a qu'à être milliardaire, on en reparlera. Quoi.
Celle qui fait des acrostiches.
Ouais, celle-là.
Comment allez-vous, RL Duclos ?
Ma foi, très bien. Merci de m'accueillir encore. Moi, je le dis pour les auditeurs aussi de Canal B, c'est avec grand plaisir si vous voulez écouter mes futures chroniques.
Ouais, il va falloir payer ta cotise, toi aussi.
Mais alors, c'est vrai que, bon, on en a parlé, tu as postulé.
Exactement.
Pour faire partie de cette émission de bénévoles. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vraiment une chronique, parce qu'en réalité, on avait l'intention de parler des flottilles de Gaza. Il se trouve qu'on t'a proposé, enfin, je ne sais qui d'ailleurs, Vivian, explique un peu la démarche.
Je suis allé, comme souvent, samedi dernier, au rassemblement qui se tient donc, tous les samedis à 15h à République, contre le blocus de Gaza et le génocide en Palestine. Et à partir de maintenant, il y a donc tous les samedis un point d'info sur cette flottille. Et donc j'ai discuté en partie avec les gens donc, de la flottille, ses représentants à Rennes, les gens qui informent sur le sujet, qui ont aussi participé à lever des fonds de cette émission. Et ils m'ont cité un certain nombre de militants et militantes du groupe qui pouvaient s'exprimer sur le sujet. Et dans le lot, ils m'ont cité RL.
J'ai plein de casquettes.
Donc on consacrera une bonne partie de l'émission à discuter de tout ça. Et donc je faisais mention effectivement que on te retrouverait sans doute prochainement pour des chroniques. Sur des chroniques, tu veux peut-être garder un peu de mystère sur...
Tout à fait, je veux pas révéler toutes mes blagues.
Il y a des blagues.
Chroniques humoristiques.
Ben, je suis hyper drôle, c'est pour ça que ça fait 3 fois que vous m'invitez je pense.
Oui, c'est vrai.
Là, en général, faut pas hésiter, faut répondre, sinon c'est...
Mais
c'est
vrai vas-y, raconte une histoire drôle. Ouais.
C'est plus une connivence de blagues qu'une connivence politique. Voilà. Non, mais faut bien le dire, c'est sur l'humour qu'on s'est trouvé.
Oui, parce que
c'est pareil fait... avec Ludo et moi, c'est pareil. C'est plus sur la blague. Bon, alors, par quoi commence-t-on ?
On peut déjà annoncer les vieilleries, déjà.
Oui, c'est vrai. Alors, la mienne... pour enchaîner avec François Hollande, assez réjoui, j'imagine, RL, de cette annonce de très probable candidature au présidentiel de François Hollande.
Tout à fait. Et puis en plus, à ça s'ajoute celle de Jérôme Guedj, François Ruffin, il y en a tout un paquet. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais ouais, on va se retrouver avec... beaucoup de projets, moi je ne suis pas intéressée par les candidats, moi je veux parler au peuple, blablabla, et même pas passer la retraite à 60 ans. Donc,
c'est vrai que le PS a publié 600 propositions pour faire débat, je me suis dit mais qui va lire les 600 ? Mais parmi les 600, il y a de rétablir la retraite à 62, ils ont abandonné ce qu'ils avaient signé avec le NFP, bon...
Le PS qui aura abandonné une promesse qu'ils avaient faite.
Ouais.
C'est une accusation grave, quoi.
Oui, que... après, moi, c'est d'après ce qu'on m'a dit. Hein, je cite la presse.
Ouais, faudra quand même se renseigner quand même sur l'histoire de ce parti, savoir qu'est-ce qui les mène quand même à renoncer à une de leurs promesses. Ça m'étonne un peu d'eux.
Tout en disant que cette fois, le PS devait devenir plus anticapitaliste et que c'était ça, le nouveau projet qui était devant nous.
Au moins jusqu'à l'élection.
Au moins.
Ok, bon on a un petit peu le ton qui est donné, j'ai bien compris que ça vous avait ému cette candidature. C'était rigolo, moi j'ai bien aimé en termes de spectacle, j'ai bien aimé la manière dont c'était fait, l'interview, je sais plus, c'était pour Marianne je crois.
De qui ?
Il dit quand même, je suis moins pire que mon prédécesseur et moins pire que mon successeur.
Hollande.
Et ouais, et il a quasiment raison, mais en même temps, je trouve que c'est vraiment l'argument habituel du Parti Socialiste, quoi. C'est, bah, on n'est pas terrible, mais il y a quand même vachement pire que nous. Et je me dis, c'est pas hyper enthousiasmant comme argument, mais en même temps, c'est sincère.
Ouais, ouais, ouais. Sachant que quand ils sont au pouvoir, à chaque fois, ils préparent le pire, parce que qui a nommé Macron ministre de l'économie ?
Oh, mais tu cherches toujours la petite bête.
Oui, oui, non, mais c'est sûrement un détail d'avoir nommé Macron ministre et de lui avoir permis de se faire des réseaux en vue de la prochaine présidentielle de 2017. Voilà.
Bah, c'est sûrement un détail pour vous, mais...
Mais pour toi, ça veut dire beaucoup.
Voilà.
Oui, t'as toujours pas désannoncé les VRI. t'as désannoncé ton édito, là.
C'est vrai ?
Ouais, t'as parlé que de Hollande.
Oh, j'ai fait
ça travaille. Ouais, ça travaille beaucoup.
Ouais, ouais, ouais. Bah, c'était Sonic Youth Sundays. Ça date de 98.
Et la deuxième VRI, c'était Gratuit. Ça, c'est le nom du projet. Et le morceau, c'était Rien. C'est sorti en 2010 et c'était extrait de l'album qui s'appelle Rien.
Voilà. Ok, normal que ce soit gratuit.
Bah oui, puisqu'il n'y a rien.
On rentre dans le vif du sujet, je vous propose.
Oui. As-tu des questions sur Gaza ? On t'écoute, Guillaume.
Mais où est-ce qu'on en est ? Est-ce que tu peux... Bon, évidemment, tout le monde suit les infos, mais où est-ce qu'on en est de la situation précisément à Gaza ?
Il y avait eu... Donc, il y a un cessez-le-feu qui a été annoncé en octobre avec la libération des otages israéliens qui étaient détenus par les groupes armés à Gaza et certaines libérations de prisonniers palestiniens, sachant qu'il y a eu de nouvelles arrestations ensuite de prisonniers palestiniens par Israël. Et donc il y avait un plan de cessez-le-feu à partir d'octobre qui évidemment n'a pas été respecté par Israël. Le cessez-le-feu est violé de façon quasiment quotidienne. Avant-hier soir, il y a encore eu 5 morts civils palestiniens dans un bombardement, une famille à Gaza. Le blocus de Gaza existe encore. Les vivres rentrent vraiment au compte-gouttes à Gaza. Donc ça veut dire qu'il y a une malnutrition importante, il y a une sous-nutrition, il y a même des difficultés à avoir accès à l'eau, les matériaux de reconstruction n'entrent pas, les tentes n'entrent même pas, il y a un certain nombre d'ONG qui sont interdites par Israël parce qu'elles ne veulent pas fournir la liste de leurs membres, et pour cause, quand on sait le nombre de civils, de journalistes ou de responsables associatifs qui sont ciblés et tués par Israël. Et ce blocus-là s'est renforcé notamment ce mois dernier dans le cadre de la guerre déclenchée par Israël et les États-Unis contre l'Iran et contre le Liban. Donc il y a toujours un blocus, il y a toujours des attaques qui ne sont pas aussi nombreuses et fréquentes qu'avant octobre dernier. Avant octobre dernier, on était à une centaine de morts par jour. Là, c'est 700-800 morts depuis octobre. Mais c'est pas non plus un cessez-le-feu quand on tue 700 ou 800 personnes en 6 mois. Et aussi, c'est encore 60% de la bande de Gaza qui sont occupés par Israël et par des groupes de collabos palestiniens qu'ils ont formés, notamment des groupes issus de gangs mafieux, de trafic d'armes, etc., qui étaient donc recherchés par la police de Gaza, etc., et qui ont viré de l'autre côté pour se sauver. Donc,
tu veux dire, ce sont des mafieux, mais de...
Des mafieux gazaouis qui sont passés du côté d'Israël pour sauver leur cul, quoi, en gros.
D'accord.
Dire un peu rapidement. Et donc, ces gens-là, avec l'armée israélienne, quoi, opèrent dans 60% de la bande de Gaza qui sont interdits aux Palestiniens. Israël tire ou bombarde quiconque dépasse cette ligne-là, une ligne qui est invisible, en fait. Il y a 60% de la bande de Gaza, on n'a pas le droit d'aller, ça joue à un mètre. Si on met le pied de l'autre côté, on se fait tuer. C'est souvent comme ça qu'un certain nombre d'enfants ou d'adolescents par an ont été tués. Et voilà. Et en fait, on dit souvent que Gaza, c'est l'endroit le plus peuplé en termes de densité de population.
Mmh.
C'est environ 2 millions de personnes sur 360 km². Et là, c'est 60% de ces 360 km² qui sont inhabitables, parce qu'ils sont occupés et interdits à la population. Et en plus, dans les 40% restants, la plupart des bâtiments sont détruits. Donc c'est des tentes qui ont déjà plusieurs mois, voire plusieurs années, qui ont été distribuées par l'ONU au début du massacre en 2023-2024, donc qui sont parfois même plus étanches, etc., dans lesquelles s'agglutinent une partie des gens, et d'autres vivent dans les ruines de leur maison, à leur escabelle.
Et à ça s'ajoute quand même le durcissement de la colonisation en Cisjordanie. Il y a plein d'images sur les réseaux sociaux en ce moment qui circulent avec des enfants qui se sont fait attaquer par l'armée israélienne alors qu'ils se rendaient à l'école, ils se sont pris du gaz lacrymogène. Enfin voilà, il y a un durcissement sur ce terrain-là. Il y a aussi la loi qui est passée il n'y a pas longtemps au Parlement israélien qui vise à mettre en place la peine de mort pour les prisonniers palestiniens seulement et qui en gros constitue, un assassinat à la fin, quoi, parce qu'ils enferment des milliers et des milliers de Palestiniens de Cisjordanie ou de la bande de Gaza et après là derrière ils ont légitimé et légiféré sur le droit de les condamner à mort par pendaison et ils ont fêté ça avec du champagne, c'était il y a moins d'un mois.
Et donc dans ce contexte, une deuxième flottille se prépare, est déjà partie.
Une deuxième, une troisième même.
Une troisième. Ouais. Une troisième et elle est partie il y a deux semaines maintenant, je dirais, un truc comme ça. Et c'est la plus grosse flottille qui est jamais partie parce que la première du coup qui avait été organisée, il me semble que c'était il y a deux ans bientôt, il y avait un seul bateau. Ensuite, il y a eu une mission plus importante avec, je sais plus, entre 40 et 60 bateaux. Et là, il y a plus de 100 bateaux qui sont pas tous partis. Il y en a une partie qui sont partis du port de Marseille, d'autres qui ont rejoint la Sicile et qui sont partis du port de Barcelone. Et là, tout le monde se rejoint en ce moment en Italie pour partir et chercher à briser le blocus de Gaza.
Parce que, bon, on en a entendu parler pas mal récemment. Ça a fait l'objet de commentaires qu'on sait en France. La flottille, elle est internationale.
Tout à fait. Il y a c'est des dizaines et des dizaines de nationalités différentes qui se retrouvent, que ce soit d'Europe, mais qu'en réalité, il y a des gens de partout dans le monde. Je voyais, par exemple, cette semaine encore, qu'il y a une militante sud-coréenne qui est aujourd'hui interdite de rentrer en Corée du Sud parce qu'elle a participé à la flottille précédente. Enfin, c'est vraiment une mission qui regroupe énormément de nationalités. Je crois que c'est une cinquantaine de pays en tout et qui là se prépare aussi concrètement à s'affronter à beaucoup de dangers en réalité parce que il y a non seulement le danger de l'armée israélienne qui est quand même une armée loin d'être réputée pour sa gentillesse, mais au-delà de ça il y a quand même le contexte de l'offensive impérialiste des États-Unis contre l'Iran, l'offensive d'Israël contre le Liban, donc la mer Méditerranée qui plus est en ce moment c'est pas non plus un terrain de jeu très agréable et donc il y a beaucoup beaucoup de risques qui entourent cette flottille-là d'un point de vue militaire et donc c'est aussi pour ça qu'il y a un enjeu que nous là où on est on les soutienne et on cherche à organiser aussi la solidarité avec la mission, la visibiliser parce que effectivement en cas d'arrestation c'est finir dans des geôles israéliennes avec des punaises de lit etc au mieux donc il y a vraiment un enjeu.
Y a eu même des blessés précédemment, enfin parmi les arrestations qui avaient été faites, y compris d'ailleurs, on s'en était étonné à l'antenne, quand même, c'était la première fois, à mon sens, que des députés français étaient emprisonnés par un État étranger, sans que finalement le ministère des Affaires étrangères dise quoi que ce soit. C'était quand même singulier. Et il y a eu effectivement des blessés.
Il y a eu un cas de viol aussi. Il y a une militante allemande qui a témoigné du fait qu'elle avait été violée par des soldats israéliens.
Ok.
Et en fait, avant les flottilles que nous on connaît, qui datent du génocide en Palestine, en fait, les flottilles en tant que telles et ce type de mission, ça existe depuis longtemps. Ça existe depuis les années 2000-2010, si je dis pas de bêtises, avec la perspective de mettre un terme au blocus israélien imposé sur la bande de Gaza. Et je me souviens plus de l'année, si c'est 2008 ou 2010, mais il y a une flottille qui a été bombardée et il y a eu des militants qui sont morts et qui ont été assassinés par l'armée israélienne.
Ouais, c'était en 2009, c'était des militants turcs qui avaient été exécutés à bout portant en fait. Les flottilles ça existe quasiment depuis le blocus de Gaza qui existe depuis 2006. Parce qu'en fait Israël a commencé à occuper et coloniser Gaza en 1967. mais de 67 à 2005, ils occupaient Gaza sur place et une partie des civils israéliens avaient été encouragés à aller vivre à Gaza pour coloniser l'endroit. Et en 2005, ils ont redispatché les colonies, ils ont fait partir les colons israéliens, ils les ont remis en Cisjordanie. Et en 2006, parce qu'ils passaient d'une vision à l'autre de Gaza, c'était plus un endroit à coloniser, à gérer de l'intérieur, c'était un endroit à mettre sous blocus et à isoler. Et donc c'est depuis 2006 qu'il y a un blocus de Gaza. Donc c'est depuis ça qu'il y a des flottilles, et c'est en 2009 donc qu'il y avait eu une flottille de plusieurs bateaux, et dont le bateau turc, et c'était sûrement par hasard que ce soit justement le bateau turc qui soit attaqué avec une telle violence. Les participants, les survivants avaient témoigné du fait qu'ils avaient été séparés ensuite quand ils avaient été arrêtés selon des critères nationaux et ethniques, et il y avait eu plusieurs de ces militants turcs qui avaient donc été tués à bout portant lors de cet arraisonnement.
Et quand tu dis que c'est sûrement pas un hasard, c'est en raison de la politique
Ouais, il y avait deux trucs. Il y avait à la fois des liens particulièrement tendus entre Israël et la Turquie à ce moment-là. Et il y avait évidemment toute une propagande en Israël et en Occident de manière plus large, disant ce sont des islamistes derrière cette flottille. Donc c'est pas un hasard si c'est les ressortissants d'un pays musulman qui ont été tués.
Ok. Bon, c'est pas très réjouissant comme... description de situation.
Mais c'est notamment pour ça que c'est important de mettre en avant la flottille, en fait. C'est aussi ce qu'il y a d'indécent dans l'espèce de contre-attaque et de propagande qu'on entend à chaque fois qu'il y a une flottille, les éléments de langage répandus par l'ambassade d'Israël qui vont être repris par des gens comme Caroline Forest et compagnie, qui sont de dire voilà, ah, ils y vont pour prendre des selfies et de se mettre
en... La croisière s'amuse.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'était le thème la dernière
fois. Ouais, c'est ça, ou le selfie yacht, ou ce genre de truc. Et en fait, c'est toujours un problème c'est une tentative de diversion. Enfin, moi, j'en sais rien. Enfin, il y a un contre-argument qui est de dire, ah, mais les gens qui y participent, ils font ça pour avoir l'impression qu'ils servent à quelque chose. Ah, ils font ça pour leur carrière ou je sais pas quoi. Et en fait, moi, je sonde pas les âmes. Enfin, il y a des milliers de gens qui y participent, qui peuvent avoir consciemment ou inconsciemment aussi, des volontés, des désirs, des motivations différentes. Mais c'est une manière de faire diversion. Enfin, le début du truc, c'est quand même de dire, est-ce que oui ou non, il y a un blocus de Gaza, est-ce que oui ou non il y a une population qui est affamée, est-ce que oui ou non il y a un génocide à Gaza, est-ce qu'il est légitime de se mobiliser contre. Ensuite, sonder les âmes en disant peut-être que les gens le font pour avoir l'impression de servir à quelque chose, pour se donner bonne conscience. Est-ce que telle personne individuellement l'a fait peut-être pour se donner bonne conscience ou pour se mettre en avant pour sa carrière ? Enfin, moi j'en sais rien, je suis pas dans la tête des gens, mais c'est de l'ordre de la morale ou même de la spéculation sur l'inconscient des gens, et c'est particulièrement indécent de leur reprocher de le mettre en avant et de le documenter, parce qu'il y a un double intérêt à le documenter, à parler de cette flottille, à le mettre en avant. Le premier, c'est que ça sert à parler de Gaza, c'est une manière de parler de la malnutrition et des crimes quasiment quotidiens commis par Israël à Gaza, c'est une manière de braquer le projecteur sur Gaza, de parler de la flottille et de la volonté de rompre le blocus, c'est une manière de parler du blocus. Et la deuxième, c'est aussi pour la sécurité de l'équipage. Il faut qu'on puisse les suivre, il faut que ce soit documenté pour que s'ils sont attaqués, ça ne se fasse pas dans l'indifférence et pour que ça dissuade Israël de les attaquer.
Bah surtout que quand on sait, les conditions sur les flottilles, c'est pas du tout, c'est pas des yachts, il n'y a pas la piscine derrière le navire, c'est tu te douches à l'eau de mer, tu fais tes besoins comme tu peux, tu as parfois 2 lits pour 10 et tu fais des tours de garde et tu dors pas de la nuit parce qu'en fait tu as toujours la pression d'une potentielle attaque israélienne. Enfin, moi ça m'avait frappé la dernière flottille où il y avait justement une participation même de députés, c'était vachement soutenu institutionnellement par les forces politiques de gauche, et il y avait eu le bombardement, je crois que c'était en Grèce, où plusieurs bateaux avaient été bombardés pour être abîmés, pour pas pouvoir partir et tout, et tu te dis c'est pas drôle, de risquer de se faire bombarder par l'armée israélienne, par des drones, ça n'amuse personne, quoi.
Peut-être que ça... On avait déjà évoqué les répercussions en France d'un conflit comme celui-là. C'est très stigmatisant. Enfin, c'est très, comment dire, il est très instrumentalisé d'une part pour bâcher la gauche en général. Et il y a aussi toujours cette espèce d'instrumentalisation de l'antisémitisme où dès qu'il y a une critique, on l'a vu récemment avec le projet de loi Yadan, par exemple, c'était assez phénoménal, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait l'assimilation si tu es antisioniste, tu es antisémite, ou tu te dis, mais en fait, ce raccourci-là, Il s'appuie sur rien. Enfin, intellectuellement, philosophiquement, il est absurde. Mais c'est une musique qu'on entend déjà depuis longtemps.
C'est le moment d'annoncer que ce lundi sur Canal B, de midi à 12h30, l'émission 3h01 portera sur cette question, à la fois sur la loi Yadan, et il y aura aussi l'interview d'Itamar Greenberg, un anticolonialiste israélien, justement.
T'es bien renseigné sur les programmes de Canal B.
Ouais, c'est vrai.
Pourtant, t'as pas payé tes cotises.
C'est vrai.
Ouais, merci de le rappeler.
Mais moi, j'étais là à 17h et pas à 18h55.
Non, mais c'est assez fascinant, je trouve, les répercussions de ce conflit à l'international, peut-être parce qu'il est long, ancien, peut-être parce qu'Israël est aussi un pays récent, un État récent, à quel point ça pollue les discussions dans le monde entier, plus que tout autre conflit sans doute.
Bah oui, non, mais pour moi, le truc qu'il faut, sur lequel il faut prendre du recul, et parce que je trouve que sinon, en fait, c'est vrai qu'on tombe vite, enfin, on peut même vite tomber dans un truc de, ouais, mais les pro-palestiniens, franchement, ils finissent par nous saouler au bout d'un moment. Et il peut exister un état d'esprit comme ça. Mais par rapport à ce que tu dis sur le truc de antisémitisme, antisionisme, en fait, la situation qui a été poussée tellement loin, parce que la situation de la colonisation de la Palestine, elle date pas d'hier, elle date de 1948. Mais avec le truc du génocide, en fait, c'est devenu tellement absurde que t'as eu une vague militante et politique qui, je pense, n'avait jamais existé jusqu'ici sur la question palestinienne, en tout cas pas à cette hauteur, à cette échelle et tout, et où tu vois que t'as des personnes qui sont de confession juive qui aujourd'hui se font criminaliser et taxer d'apologie du terrorisme. C'est le cas d'une militante qui s'appelle Olivia Zemmour, qui a 74 ans, qui est une femme de confession juive, qui est porte-parole d'une organisation qui s'appelle Euro-Palestine et qui a pris, il n'y a pas longtemps, 24 mois de prison avec sursis pour un communiqué qu'elle a écrit en octobre 2023, en dénonçant le caractère colonial de l'État d'Israël, etc. Et donc en fait, aujourd'hui, même quand on met cette situation en face des juges, dans les procès, etc., parce que même nous, à Révolution Permanente, on a des militants qui sont avocats et qui défendent les personnes qui sont criminalisées pour le soutien à la Palestine et qui finissent par faire venir le diable et sa grand-mère dans les procès pour dire, mais regardez, enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens de discuter d'antisémitisme juridiquement, politiquement, etc. Et l'État n'en démord pas. Et le premier retrait de la loi Yadan dans ce sens, pour moi, c'est une victoire, mais c'est une victoire qu'il faut aller chercher à pousser jusqu'au bout, parce que sinon, la réalité, c'est qu'on va finir par ne plus pouvoir parler de la question palestinienne. L'objectif, c'est ça, parce que derrière la Palestine, c'est une politisation contre le colonialisme, contre l'impérialisme, etc. Et dans le climat dans lequel on est, où il y a des guerres qui pètent de partout, qu'on nous parle de militarisation et compagnie, c'est pas ce que veulent les États. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils criminalisent, et c'est dans ce contexte qu'il faut le comprendre.
Ludo, nous ferais-tu respirer un petit peu ?
Ouais, on peut écouter un extrait du dernier EP de Pronostic Vital, qui est sorti le mois dernier. Le EP s'appelle Nouvelle Ère, et on va écouter le titre qui s'appelle Nouvelle Ère.
give up.
Vous êtes bien sur Canal B dans Frisson et à l'instant c'était Ludo.
C'était donc Pronostic Vital en premier, Nouvelle Ère, extrait du EP Nouvelle Ère qui est tout chaud. Ils font une petite incursion dans un style plus synth pop, voilà, c'est eux qui le disent et ça se confirme à l'écoute. Et à l'instant c'était une collab entre Fantôme et Rebecca Baby, le morceau Whoop Whoop sorti le mois dernier sur le label, sur le bandcamp du label Pan European Recording, pardon.
Super accent.
Ouais, merci.
Donc, on est toujours en direct. On discutait de la flottille en route vers Gaza actuellement. Et Vivian, semble-t-il, tu as au bout du fil une participante, une membre de la flottille ouais. En la personne de Yasmine.
J'espère qu'il n'y a pas de problème technique. Tu nous entends, Yasmine ?
Je vous entends très bien. Okay. Vous m'entendez bien ?
Oui,
et on, super.
Et on t'entend,
super.
Et on t'entend à l'antenne. On fait ça
okay,
avec nos petits moyens de Canal B associatif, donc, mais ça devrait bien marcher quand même.
Mais oui, je vous fais confiance.
Comment ça se passe pour toi ?
Eh bah, écoutez, ça se passe plutôt bien. La première traversée s'est très bien passée. On est parti du coup de Barcelone le 12 avril pour arriver jusqu'en Italie déjà, c'est la première étape. Et voilà, et puis après pour le reste, on travaille au jour le jour en fonction de la situation géopolitique, etc. Pour évaluer les risques. Et donc voilà, pour le moment ça se passe bien.
D'accord, et donc et toi tu es... chargé de la communication pour la France, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Moi, en fait, depuis bah, déjà la dernière mission, en fait, j'étais chargée de la communication. Et en fait, là, ça fait plusieurs mois qu'on travaille du coup sur la mise en place de cette mission-là. Et moi, en fait, l'objectif de ma venue sur la flottille, c'est notamment de pouvoir visibiliser la mission et servir de relais en fait à la délégation française en étant à bord, quoi.
D'accord. Et avant de te prendre à l'antenne, on discutait un petit peu de l'écho en France sur cette flottille et les précédentes. Et on se demandait, mais en fait, quelle pouvait être ta motivation ? Est-ce que tu est-ce que vous avez peur ? Moi, j'aurais peur, moi.
Alors, c'est une question intéressante. En fait, ce qu'on voit, c'est que, enfin, pourquoi on a décidé de repartir déjà, c'est parce que ce qu'on voit, c'est que c'est au-delà d'une énorme crise humanitaire, c'est une situation qui est profondément politique et qui met en jeu des questions qui sont fondamentales, notamment le respect du droit international, les questions de domination. C'est tout un système qui maintient des rapports de domination qui sont soutenus politiquement, militairement et économiquement par la France notamment. Et en fait, nous, nos motivations, elles sont là. En fait, l'idée, c'est vraiment de remettre la Palestine au centre. On l'a vu avec la dernière mission. C'était un temps qui était assez limité, qui a duré le temps de la mission. Mais tout le long du trajet des bateaux de Barcelone jusqu'à Gaza, on a vu qu'en fait, le monde a remis les yeux sur Gaza, et ça a permis en fait de maintenir une pression populaire qui a été assez importante. Et nous, ce qu'on essaie de transmettre comme message, en fait, c'est que les flottilles, à elles seules, elles sont pas suffisantes. Elles vont pas apporter de changement politique. Ce qui va compter, en fait, elles agissent comme un catalyseur de la mobilisation populaire. Et en fait, nous, ce qu'on veut transmettre comme message, c'est que sans une mobilisation de masse à terre, on n'aura jamais de réponse politique adaptée. Et l'idée, c'est vraiment que les flottilles, elles sont là pour être un moyen pour les gens de garder les yeux rivés sur Gaza et de se mobiliser. Et c'est ça notre motivation, en fait, c'est de se dire que oui, c'est dangereux, et ça reste nous, on a un passeport rouge, enfin, on est des Européens, on reste quand même protégés par notre ce statut social. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de mettre la puissance de notre passeport en jeu dans cette mission-là, pour dire en fait, oui, on prend des risques, mais ces risques sont quand même mesurés. On a un comité de sécurité qui intervient à chaque étape. Et qui évalue les risques. La priorité de la Global Summit, c'est quand même les participants. L'idée, c'est pas d'avoir des morts, hein. L'idée, c'est que ça reste mesuré. Et à chaque étape, en fait, on essaie d'évaluer les risques. Chaque participant est en capacité de réfléchir par lui-même, de prendre en considération ces risques-là qui sont évalués par des professionnels, pour dire je continue ou je ne continue pas. Et l'idée, c'est vraiment que, nous, ce qu'on veut, c'est que les risques qu'on prend soient à la hauteur des réponses qu'on aura, en fait. Donc c'est des risques dont on a conscience, qu'on évalue, mais qui restent bénéfiques à partir du moment où, en fait, ça peut permettre d'avoir des avancées pour le peuple palestinien, quoi.
Et Yasmine, pardon, c'est Erel, je débarque aussi dans Canal B, donc je vais te poser une petite question.
Ouais.
Mais
ouais,
cette semaine, on a vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait une action qui a été organisée de blocage d'un cargo qui transportait des armes vers Israël. Est-ce que toi, tu peux nous en dire un peu plus ?
Ouais, alors en fait l'idée c'est intéressant, en fait l'idée que nous on veut diffuser depuis le début, enfin que le mouvement veut diffuser, c'est qu'en fait il faut multiplier les actions. L'idée c'est que il faut que partout on parle de Gaza, que ce soit en terre, sur la terre, en mer, partout. Et en fait cette action, elle avait pour objectif d'agir directement, en fait, de rentrer dans cette stratégie de multiplier nos moyens d'action et de tout mettre en œuvre pour que la Palestine soit au centre. Et en fait l'idée, c'était de bloquer la chaîne de l'armement, et c'est honnêtement, je trouve, une stratégie qui est hyper intéressante et qui est moi je trouve que je pense que il faut multiplier ce type d'action parce qu'elles ont un impact direct sur l'approvisionnement en armement de l'armée coloniale. Donc je trouve que c'est hyper intéressant nous, dans l'idée, ce qu'on voudrait, c'est que partout dans le monde, il y ait tous les types d'actions qui soient mis en place. Et en fait, ça rentre dans cette multiplication des moyens qu'on met en œuvre pour stopper la machine de guerre, quoi.
Et j'avais une dernière question, enfin moi, mais mes collègues ont peut-être d'autres, mais une question plus personnelle, donc tu as le droit de pas y répondre, mais je pense que c'est intéressant pour les personnes qui nous écoutent de savoir Qui tu es toi, quel âge tu as à peu près, est-ce que tu, tu travailles ou tu fais des études?
En fait, c'est vrai que c'est des questions qui sont intéressantes et je pense que, enfin, en fait, on est, l'idée c'est qu'on est un mouvement citoyen en fait, dans le mouvement, il y a des personnes qui viennent de tous les milieux sociaux, c'est hyper intéressant. Moi personnellement, j'ai 29 ans. Je travaille dans des associations, donc je suis quand même. Je travaille dans des associations qui soutiennent les personnes en situation de migration. Après, en fait, ce qu'on veut diffuser, c'était assez difficile à faire en fait aujourd'hui, je trouve, moi, en tant que justement en travaillant à la com de la délégation française. C'est qu'en fait, ce qu'on veut, c'est toujours remettre la Palestine au centre. Nous, on est des citoyens qui nous engageons, mais l'idée, c'est de décentrer des personnes qu'on est individuellement, en fait, pour que ce soit la Palestine qui reste au centre et les Palestiniens qui restent au centre, et vraiment lutter contre tout cette héroïsation des personnes qui sont à bord, parce que c'est pas le but, en fait. Il y a beaucoup cette idée-là qui est, je pense que les gens, c'est ce qu'ils demandent aussi de connaître un peu personnellement les personnes à bord, enfin de connaître un peu leur histoire pour pouvoir s'identifier. Et pour autant, moi, j'essaie de lutter un peu contre en travaillant à la com. Je sais pas si ça fonctionne, mais voilà, c'est qu'en fait, on est un mouvement citoyen qui s'engage et le but c'est pas d'agir comme des sauveurs, mais c'est de permettre justement aux gens de voir qu'il y a des moyens d'agir. Et en fait, pour moi, je pense que c'est pas parce qu'on est navigant qu'on est plus en capacité d'agir que les personnes qui sont à terre, parce que c'est ce que j'essayais d'expliquer au début, c'est qu'en fait, en étant à terre, en vous mobilisant à terre en France, vous êtes autant acteurs que les personnes qui sont à bord, en fait. Je sais pas si c'est clair, mais...
C'est si grave, mais moi j'avais une dernière question, mais en fait t'as commencé à y répondre déjà un peu, mais c'était parce que tout à l'heure tu parlais des mobilisations qu'il y avait eu pour la dernière flottille, notamment avec la grève hyper importante qu'il y avait eu en Italie, de manière générale les mobilisations étudiantes dans les universités et tout. Si toi t'avais d'une certaine manière un message à faire passer aux gens, soit qui sont dans des universités, qui ont des partenariats avec des entreprises qui sont complices du génocide en Palestine, des salariés qui travaillent dans des lieux stratégiques où il y a justement du transfert d'armes, etc. Ce serait quoi le message, toi, que tu leur enverrais aujourd'hui?
Moi, le message que j'enverrais, c'est que... bloquons tout, quoi. Je veux dire, à un moment, c'est que on a entre nos mains, on est les étudiants, la masse ouvrière, on a le pouvoir entre nos mains. Enfin, si on n'est plus là, plus rien ne fonctionne. Et on l'a vu en Italie. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est reproduisons ça en fait aujourd'hui, maintenant et dès maintenant. Les occupations, l'occupation de République pendant la dernière flottille, elle était magnifique. Et en fait, il faut reproduire ça parce que au-delà du fait que ça permet de protéger les navigants, je pense que c'est pas la priorité. C'est surtout de montrer à notre gouvernement que, en fait, tant qu'on n'a pas, il n'y a pas des sanctions qui sont prises contre l'État génocidaire, en fait, on sera là et on continuera. Et en fait, il y a un peu les critiques qu'on a pas mal au niveau de la flottille, c'est le fait, c'est pourquoi vous y retournez, en fait. Et en fait, ce qu'on essaye de dire, c'est que, rien ne s'est fait en un jour, en une fois, et l'idée c'est de montrer que tant que rien ne bougera, on sera toujours là, partout, et que on fera le nécessaire pour que nos gouvernements stoppent leur complicité, quoi. Et vraiment, c'est, je pense que le coût à payer est moindre par rapport au gain qu'on peut avoir si on se lève tous et qu'on s'unit tous contre tous ces États impérialistes qui sont en train de détruire une population et de commettre un génocide, quoi.
En tout cas, merci beaucoup à toi. Bon courage à vous tous. Et on rappelle.
Merci beaucoup.
Et on rappelle au Rennais, donc tous les samedis à 15h, à Place de la République, il y a un rassemblement en soutien au peuple palestinien. Et que si la flottille est attaquée, on se rassemble à 18h, Place de la Mairie à Rennes. Et on espère qu'il y aura un mouvement de solidarité partout en France. Merci à toi.
Merci à vous.
Salut.
Au revoir.
La vraie question, c'est pas où on va trouver la moula. Il suffit de la récupérer dans les poches de ceux qui l'ont volée.
La vraie question, c'est quand on aura viré les Richards. Et Booba l'avait dit en premier, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces milliards?
Faire de tous ces milliards, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces milliards? Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces milliards? Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces milliards? Faire de tous ces milliards, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces milliards? Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces milliards? Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces milliards?
Vous met bien plus de réveil pour ceux qui sont pas du matin. Semaine de 9h, des jours fériés et aussi des croissants chauds. Et bientôt la retraite sans parler des congés payés. Et s'il y a de la neige, on n'ira pas travailler. On se paye des millions d'hôpitaux dans la diagonale du vide. On refait la tapisserie dans les écoles et les EHPAD. Entrepôt Amazon converti en zone humide. Nationalisation de tous les McDonald's.
La vraie question, c'est pas où on va trouver la moula. Il suffit de la récupérer dans les poches de ceux qui l'ont volé.
C'est quand on aura viré les Richards et Booba l'avait dit en premier.
Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces milliards?
Faire de tous ces milliards, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces milliards? Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces milliards? Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces milliards? Faire de tous ces milliards, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces milliards? Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces milliards? Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces milliards?
On vous augmente le SMIC, on vous augmente le RSA, on vous remplace les flics par des animateurs bavards. Piscine municipale qui font pas des verrues au pied.
Manque d'impersonnalité, manque d'impersonnalité.
ce n'est pas Ludo qui fait un fade out, c'est enregistré comme ça.
C'est eux qui le font eux-mêmes.
Alors, qu'a-t-on écouté ?
Alors, en premier, c'était Vulva Assassin, leur tout dernier album, qui est tout chaud. Il est sorti là, il y a une semaine ou deux. On écoutait le titre Notre Programme, et l'album, c'est Vulcanae Rock'n'Roller.
Et ensuite, Vivian, tu as présenté
ton
choix.
Vivian, ouais. Ouais, on a écouté L'Éternel Retour du groupe de punk nantais des années 90, le Zabriskie Punt. Et vous aurez peut-être reconnu la voix langoureuse et suave de François Bégodeau.
Mais oui.
Qui était chanteur de ce groupe.
Il a d'abord débuté comme punk rocker avant d'être un écrivain misogyne.
je l'aurais pas défini comme ça. Je pense que toi non plus, je pense que tu étais un peu ironique.
Non, je suis ironique. Oui, je suis ironique.
Ouais. D'accord, ça va alors, je peux rester.
Ouais.
Non, ce que j'ai promis à François, que si on disait du mal de lui, je partais. Hein. Il y a quand même des questions de fidélité
d'accord.
qui jouent.
Oui, parce que tu l'as interviewé plusieurs fois.
Plusieurs fois, trois fois, dans la revue commune. Et il y a un personnage de son dernier livre qui s'appelle Vivian et qui vit au Havre. C'est bizarre.
C'est vrai?
Ouais, j'ai un peu un moment, le mec bizarre qui a l'impression que la télé lui parle. Et...
ah non, mais c'est peut-être inspiré de toi.
Et il meurt à la fin, le personnage.
Non, mais c'est pas non plus moi, parce que c'est un espèce de débile. La seule chose qu'on sait sur lui, c'est qu'il fume des joints en regardant Papacito et en se marrant comme un abruti. Mais...
Ouais, bah jusque-là, ça colle.
Mais, merci. Non, c'est important, la littérature, ça permet de savoir comment les gens nous voient.
pourquoi ce choix
Il y a pas mal de raisons.
T'as vu, tu m'as demandé hors antenne de te questionner sur le choix de manière complètement,
dans les coulisses de frissons.
Innaturelle. Et j'ai vachement réussi. Enfin, ça passe crème. Ça, c'est la radio, ça.
Non, je t'avais suggéré une autre question, c'est pour ça que je suis surpris.
Ah merde. Ah oui, ça y est, attends, je vais le faire. Attends, 1, 2, 3. Mais que sont devenus les membres de Zabriskie Punk?
Ah mais oui, Guillaume, je vais t'expliquer. Mais non, je préférais d'abord te dire du coup pourquoi ce choix. En fait, ce que j'aime bien dans Zabriskie Punk, c'est le fait de prendre des thématiques, soit politiques, soit sociales, soit philosophiques, mais toujours un peu de biais. Enfin, par exemple, il y a une autre de leur chanson qui s'appelle « Monsieur le contrôleur ». Et parce qu'à l'époque il y avait beaucoup de chansons de punk en mode on est pour les transports gratuits et les contrôleurs nous cassent les couilles, la prochaine fois que j'en vois un je lui mets mon poing dans la gueule, et lui il prend par l'ironie en disant ça fait des mois que je fraude, ah j'ai attendu de vous voir enfin monsieur le contrôleur, bon bah ce sera mon amende de l'année mais ça vaut quand même le coup, ah mais je suis quand même content de vous rencontrer etc, on vous voit jamais, on arrive toujours à se débrouiller pour frauder les transports. Et il le prend par l'ironie, où il y a une chanson qui s'appelle Lutte des classes, et en fait c'est une sorte de déclaration d'amour en disant tu me demandais de t'écrire quelque chose qui traverse les époques, quelque chose qu'on retrouve tout le temps, quelque chose d'intemporel, quelque chose de transcendant, etc. Alors je t'ai parlé de la lutte des classes. Et voilà. Et donc,
c'est pas mal ça.
Ouais. Je voulais te faire réagir.
Non, mais j'aime bien. Moi, si on me faisait une déclaration d'amour comme ça, je pense que je serais charmée.
D'accord.
Ah, c'est là, t'as conscience qu'on a des milliers d'auditeurs.
Ouais. Écoutez bien.
Il y a ton téléphone qui vibre dans tous les sens.
Et donc, Guillaume, tu voulais savoir ce qu'ils sont devenus depuis ?
Voilà.
Et ben, en fait, Zabriskie Punk, donc c'est une bande de gens qui s'étaient rencontrés à la fac, mais d'une manière un peu plus large, il y a un groupe qui existe encore qui s'appelle le collectif Auton. Qui faisait des documentaires, qui a fait des livres aussi. Par exemple, récemment, ils ont fait des livres sur les villes. Ils en ont fait un livre sur Nantes, un autre sur Brest. Dans les années 90, ils faisaient aussi des 90-2000. Ils faisaient des documentaires qui étaient réalisés par Xavier Henault, qui était le guitariste de Zabriskie Punk, qui est malheureusement décédé il y a 15 ans à peu près.
Le fils de Brian.
Je crois pas. Non, ça s'écrit pas pareil. Mais il était réalisateur de deux clips pour Pete Doherty, notamment, Xavier Henault. Et ils avaient fait avec le collectif Auton, et donc Xavier Henault, guitariste et réalisateur des documentaires. Il y en avait eu un sur la dernière tournée de Zabriskie Punk, qui s'appelait Je suis une vidéo machine, qui est vraiment bien, qui est visible sur YouTube. Ils avaient fait des documentaires plus politiques. Il y en a un qui est très drôle, qui s'appelle Jeunes militants et sarkozistes, où ils vont en fait débattre avec des jeunes militants sarkozistes. Et en fait, même cinématographiquement, c'est intéressant, parce qu'en fait, il y a des gueules de droite et des gueules de gauche.
Quand... Bégodeau, il adore débattre avec des gens de droite.
Ouais. Et déjà à l'époque, en fait. Et même au niveau de l'image, des affects, des attitudes, de la représentation de la réalité sociale dans ce documentaire-là. Il y a un truc qui est intéressant, parce qu'en fait, quand le débat commence, où ils invitent des militants sarkozistes, même quand c'est pas Bégodeau, c'est-à-dire des gens dont on connaît pas forcément la tronche, qui sont là à côté d'un sarkozisme, bon, bah, déjà en un coup d'œil, on sait évidemment qui est le jeune con de sarkozyste étudiant en droit et qui est le prof de gauche. Quand on est dans un appart, on sait très bien si on est dans l'appart du prof de l'intello précaire ou du jeune avocat sarkozyste, je sais pas quoi. Et ce qui était marrant, c'est que en fait, quand j'avais vu le documentaire, on voit les jeunes de droite tourner en boucle sur 2-3 mots, genre ah, le travail c'est important, et puis le mérite. Et puis, moi, je pense que quand on veut, on peut. Il faut responsabiliser les individus. Et évidemment, ils sont face à des gens qui sont un peu structurés intellectuellement, qui prennent chacun de leurs mots et qui les mettent en boîte. Et je me disais quand même, est-ce qu'en fait le montage leur a pas été un peu défavorable ? Sauf qu'à la fin du documentaire, le montage leur est montré et ils donnent à chacun plusieurs minutes pour répondre. Et la plupart disent ah bah non, ça a plutôt bien représenté ce qu'on pensait. Bah non, on a tous les points de vue, etc. Donc ça, c'était l'œuvre de Xavier Henault, donc le regretté guitariste, et une partie des gens donc du collectif Auton, dont plusieurs des musiciens de Zabriskie Point, à la fois Gwenaël David, le bassiste, et François Bégodeau, le chanteur, ont lancé une maison d'édition il y a un peu plus d'un an qui s'appelle Cause Perdue Édition, qui a sorti plusieurs bouquins vraiment bien, et notamment les livres de Gwenaël David, donc le bassiste de Zabriskie Point, qui est le dernier livre que j'ai lu, qui s'appelle Je ne suis pas une libellule. Je ne suis pas une libellule, donc sur le naturalisme, à ne pas confondre avec le naturisme. Qui est donc.
J'ai pensé à ça, moi.
Bon, on peut être les deux.
Est-ce que tu peux définir naturalisme ?
C'est en gros l'étude des espèces dans leur milieu. Je crois que c'est ça, quoi.
Mais quand tu te définis comme naturaliste, c'est que tu étudies, en fait.
C'est ça ? Oui, c'est ça. Oui,
oui, c'est pas.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Alors que naturiste, tu pourrais le définir ?
C'est l'idée du rapport entre la nudité et la nature. C'est une idée de. Je crois que c'est ça.
Ok, c'est ta définition.
Moi, j'ai entendu des naturistes me dire qu'ils étaient différents des nudistes parce qu'il y a une philosophie derrière qui est liée à la nudité, mais en rapport avec la nature. Mm-hmm. Notamment une amie qui avait grandi dans une famille qui était naturiste. Bon, je crois.
Non, mais. Ça me paraît pas mal.
Et donc,
on s'écarte un peu du sujet.
Ouais. Et donc, le livre.
On digresse, on peut dire les deux.
C'est vrai, on avait vérifié une fois. Donc, Je ne suis pas une libellule, en fait, il raconte son parcours de naturaliste. J'avais peur du lapsus. Notamment le fait que dans le développement industriel, dans les grands projets inutiles imposés ces dernières décennies, dans la destruction des écosystèmes, il est de plus en plus difficile pour les naturalistes de à la fois lutter contre ces projets-là sans servir d'alibi. Et le livre est une réflexion vraiment très intéressante là-dessus, où il se demande si il devrait pas faire autre chose plutôt qu'être par exemple dans telle ou telle commission pour documenter la façon dont telle espèce est menacée, en disant il y a un problème à documenter la vie d'une seule espèce à un endroit, à la fois parce que ça se joue pas qu'à cet endroit-là. Il y a aussi un problème à instrumentaliser telle espèce en disant elle est rare, donc faut protéger cette espèce-là, mais tout le reste vous pouvez le détruire. Aussi il se dit, mais est-ce qu'on n'est pas juste là en train de m'occuper, en fait, c'est-à-dire pendant que je suis là dans la commission machin qui servira sans doute à rien, ou alors qui servira de caution pour compenser à la marge, c'est-à-dire ils vont replanter des arbres ou ils vont faire un pont ou je sais pas quoi à tel ou tel endroit pour sauver un bout du truc. Est-ce que je ne sers pas d'alibi ? Est-ce que je ne perds pas mon temps ? Est-ce que je ne devrais pas plus le passer dans les luttes ? Et notamment, il cite la pensée d'Alessandro Pignocchi, qui est un auteur de BD sur ces questions-là, où lui, il appelle à rompre avec le naturalisme, c'est-à-dire à rompre avec l'idée d'une croyance en la nature, en disant faut pas séparer le sujet et l'objet, il ne faut pas dire nous, on est les sujets qui contrôlons la nature en tant qu'objet, en fait. Il faut vraiment remettre en cause le système de destruction de la nature, de destruction des écosystèmes, et penser beaucoup plus une interdépendance. Et donc ça, c'est à Cause Perdue Édition, qui est donc la maison d'édition créée par le collectif Auton, où Bégodeau aussi vient de publier un essai qui s'appelle Du Mépris, que j'ai lu, que je trouve vraiment vraiment bien.
Ça cause un peu de ce, comment dire, de de la nouvelle mode de des dominants qui accusent les dominés de mépris de classe.
Ouais, bah par exemple le Rassemblement National fait beaucoup ça. Ouais. Dès qu'on les critique, ils vont dire ah mais vous méprisez nos électeurs, c'est du mépris de classe parce que
c'est vrai, ouais.
Parce que Jordan Bardella est le représentant des classes populaires. La preuve, il sort avec une princesse. Et Bégodeau, par exemple, il est un peu sérieux, même sociologiquement, en disant bon bah allons voir qui vote pour le RN. En gros, c'est souvent la petite classe moyenne, les gens qui ont un tout petit peu, pas les riches, mais les bon il y a aussi des riches qui votent pour le RN, mais dans les classes populaires, ceux qui votent par exemple, bah il y en a un peu plus qui ont plus de 2000 euros que dans ceux qui votent pas pour le RN. Il y en a un peu plus qui sont propriétaires dans leur logement que de ceux qui votent pas pour le RN. Et c'est quand même la peur du déclassement. Et par ailleurs, est-ce qu'on appellera à des moments de soit mépriser des idées, voire des gens pour leur attitude. Il parle aussi même de la mode de parler de mépris de classe, qui est quand même une façon assez libérale de parler de la question de la classe sociale. Par exemple, moi j'y avais pensé, ça m'avait agacé au moment des dernières européennes, les écologistes avaient fait leur campagne sur la question de la pauvrophobie. C'est-à-dire, quelque chose qui vient d'assez loin en fait. Enfin, c'est quoi? C'est l'aristocratie.
Respecter les pauvres.
Ouais, c'est ça. C'est
ne donnez pas de cacahuètes aux animaux.
C'est l'aristocratie qui dit on aime bien les gens humbles. C'est les bourgeois qui disent non, mais notre femme de ménage, c'est une mère de famille très courageuse. On la respecte beaucoup, Madame Diallo. Mmh. Et en fait, comme si le problème c'était pas qu'il y ait une classe qui possède les moyens de production et qui exploitent les autres, mais que c'était juste est-ce qu'on les méprise ou pas. Et Bégodeau, il revient même dans ce livre sur la question de l'humour, de dire c'est quoi ce moralisme sur l'humour, sur les classes populaires, en gros en disant quoi, si on fait à partir d'un certain stock de blagues sur telle ville, si on a dit un peu trop de fois qu'elle est moche ou que les habitants sont des ploucs, d'un coup là les gens vont avoir des maladies professionnelles ou on va désindustrialiser. Il dit à un moment le problème c'est pas les blagues, c'est pas la représentation, c'est pas de faire la morale aux gens, c'est quand même une structure économico-sociale. Et il parle aussi un truc qui m'a beaucoup parlé, qui m'a intéressé, qui est sur la question du mépris culturel. Il parle d'une discussion qu'il a avec un militant communiste qui lui dit mais tu devrais pas mépriser Le Seigneur des Anneaux et pas mépriser Netflix et oui. Pas mépriser Marvel parce que c'est la culture populaire. Puis lui dit non mais c'est une culture industrielle, c'est pas une culture populaire. Et il dit aussi c'est quoi cette accusation en snobisme.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une convergence à un moment donné entre culture industrielle et populaire?
Ce que Bégodeau essaye de dire dans ce livre, c'est qu'il ne faut pas confondre le peuple avec le nombre. Le peuple, c'est, il existe quand il a conscience de lui-même et quand il crée quelque chose aussi. Là, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui consomment quelque chose, est-ce que ça veut dire que c'est populaire? Enfin, il essaye de distinguer les différents usages du mot populaire. Il essaye de répondre à cette accusation en mépris ou cette accusation en snobisme. C'est-à-dire, si tu es attaché à Godard, plus qu'à Netflix, est-ce que c'est vraiment toi le bourgeois? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi se mettre à jour, parce que quand même il y a plus de bourges qui regardent Netflix que de bourges qui connaissent très bien Godard ou qui vont à l'opéra. Donc voilà, enfin, à un moment... Et moi je me suis reconnu là-dedans aussi par rapport à ma propre place ou par rapport à ce que je fais, enfin, c'est-à-dire dans les gens qui écrivent sur Godard, à la fois j'invente qu'on n'est pas nombreux, on fait pas de bruit, et aussi c'est beaucoup plus des intellos précaires que la grande bourgeoisie qui va se détendre devant Netflix après sa réunion sur la fusion-acquisition de je sais pas quoi.
Et toi, RL, dans ta pratique politique, on t'a fait le coup du mépris de classe?
Ça arrive.
De l'élite. L'élite. Vous seriez l'élite.
Oui, mais c'est quand même souvent des gens de droite ou d'extrême droite qui me disent ça, qui me disent oui, mais toi, tu es une petite bourgeoise qui n'a jamais travaillé de sa vie et machin. Mais après, on m'a inventé plein de vies. Et que, en fait, donne plein d'expériences à réfléchir et à imaginer. Donc, c'est intéressant. Mais j'ai été soit une bourgeoise du 16e, soit mon père est milliardaire. Enfin, on a des militants, même chez nous, qui se sont fait inventer des moulins et des propriétés totalement délirantes. Parce qu'en fait, il faudrait justifier le fait qu'on est militant révolutionnaire par le fait que on ait le temps d'y penser. Et en fait, moi, c'est marrant, mais en plus, dans la discussion sur Godard, ça me fait marrer. Mais moi, je connaissais pas Godard avant d'arriver à la fac. Et la première fois qu'on m'a parlé de Godard...
Tu connais pas ?
Bah ouais, mais je l'ai un peu vécu comme ça, pour de vrai. Parce que j'étais en mode, non, moi, la nouvelle vague, je connais pas. Parce qu'avec mes parents, on regardait Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter. Et c'était hyper cool, tu vois. Et moi, je kiffais grave ça. Et donc, en fait, c'est marrant parce que en même temps... moi ça m'étonne pas, enfin je suis une meuf, je suis jeune, évidemment qu'on va m'inventer une, je suis étudiante, enfin tu t'imagines bien qu'on va pas me dire ouais toi t'es une prolo, tu connais toute la vie, alors qu'en fait moi j'ai grandi dans un milieu social ultra campagnard et tout qui se rapproche beaucoup plus justement des vécus des classes populaires et de la réalité des classes populaires, parce que comme je disais je connaissais pas Godard, mais par contre je trouve que la discussion sur le truc de mépris etc elle est intéressante, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui quand tu regardes les réseaux sociaux en fait d'une certaine manière tu finis par une, avec une perspective qui est individualiste, c'est-à-dire de on devrait tous être des bons individus qui méprisent pas les gens, qui sont déconstruits, qui sont machins etc et tout, mais en fait in fine ça abandonne totalement la perspective de transformation et de lutte collective, parce que le problème du mépris de classe, enfin c'est évidemment un problème, mais le problème c'est pas le mépris en tant que tel, c'est comme tu disais un peu Vivian, c'est l'existence de classe sociale, c'est le fait qu'il y ait, enfin moi à la limite je m'en foutrais d'être mépriser si derrière j'avais les moyens de vivre dignement, de pouvoir être logé dans un logement sans moisissure, de ne pas vivre dans une société à ce point-là inégalitaire, etc. Et je pense que discuter sur la base de mépris, pas mépris, ou même juste du point de vue culturel, en fait, ça enlève la structure économique et la structure sociale qui est pour moi le cœur de la discussion. Parce qu'en fait, moi, je m'en fous de militer avec des gens qui ont vu Godard alors que moi, j'y connaissais rien et que je regardais Harry Potter. À partir du moment où on défend la même perspective qui est de renverser une société qui est profondément inégalitaire.
Puis quitte à me répéter, je pense que la plupart des bourges ne voient plus Godard. Moi, je préfère les bourges d'avant quand ils étaient cultivés. Rendez-moi mes bourgeois.
Bon, musique, tu voulais enchaîner avec Margaret Tchatcheuse.
Tchatcheuse, c'est un groupe de Rennes. C'est un groupe de Rennes. Ils sont en concert demain, samedi, à 19h45 au Maï. Et la semaine prochaine, le 2 mai, au bar Le Brooklyn à Rennes. Donc voilà, demain au Maï, venez, 19h45. C'est Britney.
Venez.
C'est Britney. C'est la première fois qu'on passe Britney dans Canal B.
Non, on a déjà passé Britney.
Vous êtes dans Frisson sur Canal B en présence de Ludo RL qui ne connaît rien à Godard et Vivian qui ont fait des tonnes avec Godard, c'en est un peu pompeux, et moi-même, alors que l'émission touche à sa fin. Un petit mot peut-être de conclusion. De...
T'avais vu le film Ici et ailleurs de Godard sur la Palestine ?
Non.
Ah, tu l'as pas eu ? Ok.
Non, j'avoue que je suis pas un grand fan de Godard.
Ok.
Tout ce que j'ai retenu, c'est si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, allez vous faire foutre. Je crois que c'est Belmondo dans.
Dans. Merde, putain. Le...
Ouais, tu connais ouais, pas tant que ça.
Comment
en fait.
T'es nul en Godard.
Mais si, si. Non, mais c'est le même film où il dit qu'il aime pas je sais pas quel plat. Et que d'ailleurs, c'est bien de pas aimer. Parce que sinon, il en mangerait alors qu'il supporte pas ça.
<Et c'est... rire> Ouais, ouais. Bon, c'est un vieux. C'est un du début, quoi, de la nouvelle vague.
Mais oui, oui. Non, mais je vois.
Ouais, il se jette sur son téléphone pour rechercher le titre. Et paraître cultivé, alors qu'en fait
je sens ton mépris, je sens le mépris là,
le mépris de classe, bah ouais, oui, tout
c'est
à
parce
fait.
Que je viens du Havre,
c'est pas un mépris de classe, Google c'est l'industrie mec. C'est ton Google va te donner un titre qui n'est pas vrai.
Non, il y a que ChatGPT qui ment, mais Google il est honnête.
Ouais, c'est très trumpien comme démarche.
Bah meuble parce que là je
Eh ben, Erel, c'est à toi que revient le mot de fin pendant que Vivian pédale dans la choucroute.
Ben non, bah écoutez les amis, soutenez les...
Pierrot le fou. C'est dans Pierrot le fou.
Et comment tu mansplaines le truc, quoi ?
C'est clair.
Une fois, j'ai une pote c'est qui m'a demandé ce que c'était le mansplaining et j'étais coincé, je pouvais pas répondre.
T'osais pas répondre, du coup.
Bah non. Du coup, t'allais dire quoi, Erel, avant qu'un homme te coûte la parole ?
J'allais dire qu'il faut soutenir les flottings qui vont partir bientôt d'Italie, qu'il y a des rassemblements tous les samedis à 14h.
15h,
putain.
Puis après,
mec,
on nous reproche le mansplaining, mais c'est à vous aussi, là. 15h.
Il est temps que cette émission se termine.
C'est clair. Non, mais voilà, 15h République, et puis surtout, en cas d'arrestation, que vous soyez étudiant, que vous travaillez à un endroit, enfin voilà, il va falloir se mobiliser pour les soutenir. Donc, c'est ça le message qu'on va finir par faire passer, pas le mépris de Vivian pour les gens qui n'ont pas vu la deuxième vague.
Et est-ce que vous voulez que je fasse une blague avant qu'on se quitte ?
Ouais, une histoire drôle, elle n'est pas
est-ce
trop longue.
Est-ce que vous savez pourquoi Sophia Aram ne sera pas sur la flottille ?
Parce qu'Aram ?
Bah ouais.
C'est ça la blague.
Exactement, mais ouais, ça m'a pris trop longtemps.
Je pourrais aller écrire ta blague.
Eh ouais, bon, écoute, c'était un petit truc comme ça, quoi, pour mettre en joie, apporter un peu de...
Eh ben, elle était très drôle.
J'ai l'impression d'être
jugé. Tu es très doué. Moi, je te mets un 10. Eh bien, et c'est,
à
la
bientôt.
Fin, c'est la fin.
Sûrement, puisqu'on doit travailler le 1er mai, peut-être qu'on sera là.
Ouais, il y a des chances.
À bientôt, portez-vous bien.
À bientôt.
Bah oui.
Yes, bon week-end, bonne soirée, cœur, cœur, bisous.
Ciao. Le 1er mai, vous allez faire une émission.
reste pas seul dans le bois, ne reste pas seul dans le bois.